Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 février 2022 et les marchés sont toujours dans l'incertitude. Quand on voit les performances des indices, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, franchement, ça fait partie de ces journées. Si on n'était pas venu, on n'aurait pas franchement vu la différence. Il est clair qu'on est toujours un petit peu dans le même bain. En gros, la Russie, l'Ukraine, le pétrole, l'inflation et beaucoup de chiffres trimestriels assez intéressants, assez spectaculaires, qui montrent aussi une psychologie du marché assez, pas étonnante, pas surprenante par rapport à ce qu'on vit en ce moment, mais c'est vrai qu'on continue vraiment dans un mood un petit peu bizarre quand même au niveau des trimestriels. On va y revenir, mais tout d'abord, on repart directement sur la frontière russo-ukrainienne. Alors, la thématique de la Russie et de l'Ukraine, on l'a vu, hein, c'était un rebond avant-hier parce que les troupes russes s'en allaient retourner à la caserne, c'était fini, youpi, tralala. Et puis alors du coup, on n'est pas tellement content parce que d'abord, on a eu la bonne nouvelle, mais alors du coup, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a eu la bonne nouvelle, bah de nouveau, on est dans l'incertitude parce qu'avant, on se disait Poutine, c'est soit il rentre, soit il rentre pas. Maintenant, on a l'impression qu'il rentre pas, mais on n'est pas sûr. Et puis du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire derrière ? Donc du coup, on a un monstre doute et on n'aime pas avoir des doutes. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, n'aiment pas quand on leur dit pas exactement ce qu'il faut faire. Non, un marché heureux est un marché qui est cajolé, qui est rassuré, chez qui on vient lui dire « c'est bon, je vais te pousser en avant, ça va bien se passer, tu verras, ça va être génial sur l'avenir ». Non, pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, on est en plein bordel total, on ne sait pas où on va, et alors du coup, on a des doutes sur ce que peut faire Poutine. Alors pour l'instant, la Russie annonce qu'ils sont en train de se retirer, mais l'OTAN dit l'inverse. Alors ce qui est assez marrant aujourd'hui, il faut quand même le signaler, c'est que, pour ce que j'avais compris, aujourd'hui, avec un satellite, vous arrivez quasiment à voir la couleur du drink qui est posé sur la chaise longue de la terrasse au milieu du jardin dans n'importe quelle maison en Europe. Donc on voit à peu près tout avec des satellites. Mais alors par contre aujourd'hui, on est en train de nous préparer une soi-disant guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par contre, personne est foutu de nous dire ce qu'on voit avec les satellites. Ils sont même pas sûrs, ils savent même pas si les mecs sont là ou pas là, s'ils ont ramené des troupes ou enlevé des troupes. Ben, c'est incroyable quand même, d'habitude les mecs ils voient tout avec leurs satellites. Mais là alors, vous avez une armée de 150 tanks, alors là, personne ne sait où ils sont. Personne ne sait où ils sont exactement. L'OTAN n'arrive pas à dire vraiment s'il y a quelque chose qui a bougé ou pas, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs satellites? Je sais pas, ils sont tous trop occupés à utiliser les satellites pour mettre en marche Starlink d'Elon Musk. J'en sais rien. Toujours est-il que cette incertitude autour des troupes russes et où elles vont et qu'est-ce qu'elles font et le désaccord entre ce qui se passe entre l'OTAN et la Russie fait que pour l'instant on a une petite incertitude qui nous plaît pas trop. Alors du coup, ben, ça a pas vraiment motivé le marché. C'est ce qui a mis un peu la pression sur le marché à la vente en début de séance et qui fait que finalement l'Europe ne fait rien et les États-Unis font pas grand-chose. Par contre, l'autre thème sur lequel il faudra qu'on discute, eh bien, c'est forcément les minutes du FOMC meeting, parce que maintenant, on sait. Oui, maintenant, on sait. Donc, souvenez-vous, à la fin du mois de janvier, la Fed s'est réunie, ils ont parlé derrière les murs, ils ont fait un communiqué de presse en disant qu'ils étaient prêts à agir pour changer le rythme de la hausse des taux, pour freiner cette inflation, ça, on le savait. Mais maintenant qu'on a eu les minutes hier soir, ça a évidemment tout changé. Ça a tout changé parce que maintenant, on sait que la Fed est prête à monter les taux pour freiner l'inflation, mais ils sont prêts à le faire violemment, brutalement, rapidement. C'est en tout cas ce qu'on a retiré des minutes hier. Alors, globalement, ce qu'on retient surtout, c'est que la plupart des membres de la Fed sont tous d'accord sur le fait qu'il faut monter les taux pour freiner l'inflation. Il est clair qu'aujourd'hui, s'il y a un débile dans le tas qui est pas d'accord, on va avoir un problème. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est d'accord, on sait que la Fed va monter les taux, mais en plus, on a l'impression dans les commentaires qu'ils ont posés hier dans les minutes du FOMC meeting, eh bien, qu'ils vont monter les taux deux fois, de 0,5% entre mars et entre mai. Donc, le meeting de mars, bam, 0,5%, le meeting de mai, bam, 0,5% de nouveau. Ça sera la première fois depuis 1994, si ça se produit, que la Fed monte deux fois de suite 0,5% et intérêt. Alors attention, qu'est-ce que ça va donner? On n'a pas encore tout vu les statistiques, mais en tout cas pour l'instant, ce qui est plutôt encourageant, c'est que le marché n'a pas baissé sur la nouvelle parce que le marché est déjà en train de tout presser. Et puis on se dit, si effectivement entre mars et mai, la Fed monte les taux de 1%, l'inflation devrait quand même logiquement baisser. même si les puristes diront qu'il faut 6 à 9 mois pour qu'il y ait vraiment un impact sur les prix à la consommation dans les mois à venir. Néanmoins, on est plutôt encouragé par rapport à ça et on se dit, bah, au moins, il y a déjà ça de fait. Puis comme on est toujours plus ou moins entre 1,5 et 2% sur l'année, on dira, bah, voilà, fin mai, la Fed a déjà fait un gros morceau, on n'a plus trop grand chose à craindre sur les taux. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, pas paradoxal, mais ce qui est assez intéressant à observer, c'est plutôt la courbe du 2 ans, le comportement du 2 ans, du rendement du 2 ans américain. Alors, d'habitude, on parle du 10 ans, mais on dit aussi que le 2 ans est plus précis comme signal de la hausse des taux. Mais quand on commence à avoir pressé un certain niveau de hausse des taux, eh bien on voit plus ou moins où est-ce que le 2 ans se traite. Aujourd'hui, le 2 ans se traite autour des 1,5, 1,6 qui correspondrait plus ou moins à un target de hausse des taux attendu. Allez, on va dire entre 1,5 et 2, mais pour l'instant, quand vous regardez le graphique du rendement du 2 ans, ce qui ne veut strictement rien dire parce que faire de l'analyse graphique là-dessus, ce serait complètement stupide, mais on voit quand même bien que depuis quelques jours, malgré les nouvelles qui laissent poindre une nouvelle hausse, eh bien, on a l'impression d'avoir intégré les choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le marché n'a pas baissé sur cette mauvaise nouvelle par rapport au taux hier. Le marché a rien foutu parce que finalement, on sent qu'il a complètement intégré ce process de hausse des taux. C'est clair que si Powell se pointe devant le Congrès la semaine prochaine et puis dit « Oui, moi, je pense que je vais monter les taux de 5% cette année », on va avoir un problème parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend. Mais pour l'instant, on n'est pas là du tout et à moins que Powell ait pété un câble, ça devrait pas se produire. On entre dans le chapitre psychologie de marché. Alors hier soir, on avait quand même beaucoup de sociétés qui publiaient leurs résultats after close, à commencer à Seigneur tout honneur par Nvidia, un des plus gros titres des semi-conducteurs, la star de ces dernières années qui publiait ses chiffres trimestriels. En gros, on va pas rentrer trop dans les détails, mais carton plein, ils ont explosé leurs revenus, tout va bien, ils sont super positifs pour l'avenir, ils s'attendent à une croissance organique explosive à partir de ce trimestre-là pour 2022, hyper positif sur l'avenir, fantastique. Vraiment des chiffres impeccables, sachant que le titre s'était fait bien taper dessus ces derniers temps, on avait un petit espoir de voir une jolie réaction after close. Eh bien, que nenni. Alors, le titre ne baisse pas non plus énormément, il baisse de 2% et des poussières, mais on peut se dire, quand on voit la qualité des résultats et quand on voit l'explosivité de la suite qu'ils prévoient, on se dit, mais on n'a pas été un câble quelque part, pourquoi est-ce que le titre baisse? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont beaucoup parlé lors de la conférence de presse after close. Le CFO a quand même expliqué que la problématique de chaîne d'approvisionnement restait problématique, qu'ils travaillaient dessus, mais que ça prenait du temps pour s'améliorer. Ça allait s'améliorer, mais que pour l'instant, c'était pas franchement youpi, tralala, zimboum. Donc du coup, les gens étaient plutôt déçus parce qu'ils étaient pas très enthousiastes sur le fait qu'ils allaient régler le problème des chaînes d'approvisionnement comme ça. C'est un petit peu ce qu'on espérait quand même. Eh bien, pas du tout. Ils se sont montés très parcimonieux. Ils ont dit que ça prendrait du temps. Et ça, on n'a pas aimé du tout. Donc résultat, le titre baissait après la clôture. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le reste, les chiffres sont quand même excellents. Deuxième boîte dans le secteur des semi-conducteurs hier soir, Applied Materials. Les chiffres étaient bons globalement. Rien à dire. Ils ont fait mieux que les attentes. Pas de trucs extraordinaires. Structurellement, c'est beaucoup moins spectaculaire que Nvidia. On va dire que sur l'avenir, c'est aussi beaucoup moins spectaculaire, mais ils sont enthousiastes, ils sont positifs, et puis surtout, ils ont dit qu'ils espéraient normalement pouvoir répondre à la demande de leurs clients qui auront besoin de leurs machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Donc, c'était plutôt des nouvelles encourageantes, et là aussi, intervention du psyché du marché. Ah oui, mais alors, s'ils sont enthousiastes pour ce côté-là, c'est intéressant parce que du coup, en vendant plus de machines, on va pouvoir aider à réduire le problème de shortage de semi-conducteurs, donc c'est une bonne nouvelle. Donc le titre montait 3% hier. Faut aller chercher loin dans la psychologie de marché, mais en tous les cas, c'était une belle after close séance, on va dire ça comme ça, pour Applied Materials hier soir avec des résultats qui étaient plutôt corrects. Cisco, le titre qu'on regarde plus, tout le monde s'en fout, ça a eu été une des stars dans les années 2000, mais pour l'instant Cisco c'est devenu un tout petit peu has-been. Néanmoins, après une grosse correction du titre ces dernières semaines, eh bien ils ont publié des chiffres absolument parfait, rien à dire, ça se passe bien, ils sont très contents, ils sont positifs pour l'avenir, on va dire c'est un carton plein, rien à dire de spectaculaire, si ce n'est qu'en plus, ils rajoutent un share buyback, un rachat d'actions de 15 milliards, donc c'est encore une bonne nouvelle supplémentaire, le titre prenait 3,5% après la clôture, ouh, c'est du délire, quand on regarde aussi des très bons chiffres chez Cisco, et derrière ça monte de 3,5%, ça montre aussi que pour l'instant le marché, les bonnes nouvelles, hein, les trucs qu'ils auraient poussé vraiment des titres à la hausse, parce qu'il y a du fond qui est en train de se monter, de se construire de manière très intéressante, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut, c'est des trucs sexy, des trucs géniaux, des trucs qui justifient une explosion du titre pour vraiment qu'on court derrière. Ou alors une mauvaise nouvelle pour que ça fasse plomber le titre ensuite. Mais en tous les cas, pour l'instant, C'est vrai qu'on est plus réceptif quand c'est des mauvaises nouvelles, et quand c'est des bonnes nouvelles, on attend vraiment un truc super sexy, un peu comme DoorDash. Alors DoorDash, vous connaissez, hein, DoorDash, c'est la boîte qui fait de la livraison de bouffe à domicile. Alors vous savez, c'est génial, la bouffe à domicile, c'est un truc qu'on a vraiment apprécié durant les périodes de confinement. Vous commandez, ça coûte plus cher, on vous livre de la bouffe tiède dans des assiettes en carton, et c'est absolument génial. En tout cas, ce qui est positif dans les chiffres de DoorDash qui ont été publiés hier soir, c'est que il semblerait qu'il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs de ce type de bouffe. Génial, c'est vraiment fantastique. Mais bref, de plus en plus d'utilisateurs, donc des chiffres en croissance de ce côté-là. Et puis, alors, à côté de ça, alors, des chiffres, des revenus supplémentaires, des revenus au-dessus des attentes des analystes. On va pas commenter ce sujet-là. Par contre, à l'opposé, une perte, ils ont annoncé une perte bien plus grosse que ce que les analystes attendaient. Les analystes attendaient quelque chose comme 92 millions de pertes. Ils sont sortis 155 millions de pertes pour le trimestre et plus de 450 millions de pertes pour l'année en cours. Donc, mais par contre, ils ont des nouveaux utilisateurs. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc quand vous regardez ça, vous vous dites, on a une perte qui est plus grosse que prévu. Ils ont perdu quasiment un demi-milliard sur 12 mois. Et puis, ils sont dans un business qui est la livraison de bouffe à domicile. On peut supposer, je dis bien on peut supposer que si les choses au niveau du Covid se calment, les gens, ils vont quand même arrêter de commander à la maison et recommencer à sortir manger dehors. En tout cas, perso, c'est ce que j'aurais tendance à vouloir faire. En tous les cas, c'est pas comme ça que le voit le marché, parce que alors, sur le fait que tout d'un coup, ils ont un peu plus d'utilisateurs, le titre prenait 30% hier soir after close. 30%! Alors, soit la moitié de la planète est short dessus, soit ils trouvent tellement génial de bouffer du pognon et de perdre du fric tous les ans que les investisseurs se disent c'est vraiment l'avenir. Donc, je me pose un petit peu des questions, je me fais l'avocat du diable, mais en tout cas, hier, Wall Street a trouvé que les chiffres étaient exceptionnels, que c'était fantastique pour DoorDash. Alors, ils perdent du fric, on s'en fout, c'est comme au l'an 2000, un jour, ce sera génial. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de parler sur DoorDash. Par contre, si on regarde le chart qui s'affiche devant vos yeux, eh bien, vous voyez que DoorDash a déjà publié des résultats exceptionnels au mois de novembre. Le titre a pris 20% sur l'annonce et depuis, il a perdu 50%. Donc, si on fait le même mouvement, je vous dis pas où c'est que ça va se terminer la prochaine fois. En tous les cas, le titre était à 95 dollars hier soir à la clôture après avoir perdu 7% durant la séance. Probablement parce que les Russes s'approchent un peu trop de l'Ukraine. Et puis de l'autre côté, bah, elle prend 30% derrière parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Alors la perte, 155 millions sur 3 mois, c'est rien du tout. Un demi-milliard par année, c'est cadeau, ça me fait plaisir. En tous les cas, pour l'instant, eh bien, explosion sur DoorDash. On voit bien que le marché, il est un tout petit peu bizarre dans sa tête. Deux nouvelles que l'on doit aborder un peu sur un ton décontracté. La première, c'est la nouvelle restriction, les nouvelles réglementations que Google est en train de mettre en place qui va réduire la facilité pour traquer les gens qui sont sur les sites internet. Donc en gros, ce que Facebook a besoin, ce que Twitter a besoin, ce que Snap a besoin, et ben Google, ils vont serrer la vis et ce sera beaucoup moins facile de pouvoir obtenir des informations sur vos promenades sur internet. Donc du coup, Facebook pourra moins vous cibler avec leur publicité, ben justement très bien ciblée. Vous savez, quand des fois vous posez votre téléphone sur la table et puis vous parlez, tiens, j'irais bien en vacances aux Seychelles, et puis 10 minutes après, quand vous allez sur Facebook, vous avez de la pub pour les vacances aux Seychelles. Eh bien, tout ça, ça risque d'être remis en cause par les nouvelles réglementations que Google veut mettre sur ses sites à elle. Donc, sur ses sites à eux. Donc, comme en gros, c'est eux qui maîtrisent une grande partie du trafic, c'est un problème pour Facebook, pour Snapchat, pour Twitter, mais surtout pour Facebook. Puis en ce moment, Facebook, on n'aime pas trop quand ils ont des problèmes. Donc hier soir, le titre baissait un petit peu. Alors la problématique dans tout ça, c'est un truc qu'on va reparler parce que forcément, les autorités supérieures aux États-Unis, ceux qui ont toujours raison, eh bien, sont en train de débarquer pour mettre le nez dans ces histoires-là et sont en train de se dire que finalement, c'est peut-être pas très fair au niveau opérationnel et peut-être qu'il y aura un problème de anti-compétitivité, on va dire. Donc du coup, c'est une histoire dont on va reparler. Alors pour l'instant, il n'y a rien de grave, mais en tous les cas, c'est un sujet qui va devoir être abordé ces prochains temps, parce qu'après, la claque que Facebook s'est pris au niveau d'iOS et les nouvelles réglementations que Apple a mis en place il y a quelques mois, et ce que Google est en train de leur faire aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est de l'acharnement. Mais à suivre attentivement ces prochains temps, parce que les autorités pourraient venir cette fois au secours de Facebook. Et ce sera la première d'ailleurs. Et puis on termine avec une nouvelle que l'on pourrait appeler Munger, Musk, Tesla et les maladies vénériennes. Alors c'est clair que comme titre, ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc Charlie Munger, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le numéro 2 de Berkshire Hathaway, donc c'est le meilleur ami de Warren Buffett. Donc c'est un monsieur qui fait de l'investissement très long terme, qui fait de l'investissement value et qui est pas forcément un monstre fan de tout ce qui est hyper spéculatif. Eh bien figurez-vous qu'hier, ce monsieur Munger, lors d'une conférence ou d'un article, je ne sais plus, peu importe, hier il a déclaré que le Bitcoin était plus ou moins comme une maladie vénérienne et qu'il fallait faire très très attention à ces nouvelles technologies de crypto-monnaie. Le Bitcoin est comme une maladie vénérienne. Alors je pose ça comme ça, je ne juge pas. C'est Charlie Munger qui a dit ça. C'est quand même un mec qui a fait un carton au niveau investissement. Donc forcément, ça fait pas plaisir à une certaine communauté de la crypto-monnaie. Alors de là à dire que c'est pour ça que le Bitcoin rebaisse de 0,7%, j'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, ces commentaires-là ont dû froisser quelques personnes, dont une personne assez importante pour les crypto-monnaies, Monsieur Elon Musk. Alors Monsieur Elon Musk a tout de suite repris son téléphone, son compte Twitter, pour dire, eh bien vous savez quoi, puisque Monsieur Munger pense que le Bitcoin c'est de la daube, ben, je vais vous raconter une histoire. Eh bien Monsieur Munger, il y a quelques années en arrière, eh bien lors d'un grand dîner avec plein de personnes à table, il a pris la parole et il a expliqué à tous les convives comment Tesla allait finir en faillite. Et il a expliqué par le menu où c'est que ça allait partir en vrille et comment la boîte ne voudrait bientôt plus rien. Donc voilà, c'était un petit peu le retour, la réponse du berger à la bergère, puisque aujourd'hui, bah, Tesla est quand même la plus grosse capitalisation boursière en termes de voitures. Ça ne se justifie peut-être pas, d'accord, mais la réalité est là. Donc, petit combat entre l'ancienne garde, on va dire, Monsieur Munger, qui a pratiquement 100 ans, et Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, pour se bagarrer, pour venir à la défense ou à l'encontre du Bitcoin. Donc voilà, Monsieur Munger pense que le Bitcoin, c'est une maladie vénérienne, et Elon Musk pense que Monsieur Munger est un tocard. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire là-dessus. C'est ainsi que se termine ce Morning Bull Live du 17 février 2022. Je vous encourage à continuer à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse, comme d'habitude, et puis à liker cette vidéo, et puis revenir demain matin pour voir ce qu'il en est de nos fabuleux marchés boursiers. D'ici là, passez une très très belle journée, et je me réjouis déjà de vous voir ici même. Bye bye.